Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allez, on se tient au jus.
Salut, c'est Camille et Justine et bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec la Big Bertha.
Bonjour.
Coucou. Trop contente de te recevoir. On boit non pas du jus mais du café aujourd'hui. Voilà, du jus et du thé pour ma part. De la tisane au CBD même, car je suis angoissée.
Donc au fur et à mesure du podcast, tu vas faire.
Ouais, je vais te foncer. Voilà, c'est normal. Pas... Si je commence à parler tout doucement parce que je suis très détendue.
Tu viens de donner mes informations sur le CBD.
Vraiment.
Non. Des éléphants rosa.
Non, en plus j'ai rodé le CBD parce que pendant très longtemps, je voulais pas en prendre parce que j'avais trop peur que ça ait le goût de weed et les effets de la weed qui sont mon big trigger de la vie et que je veux pas du tout être défoncé. Et rassurez-vous, a priori, une tisane au CBD,
t'es ça pas te relaxe, voilà, simplement.
Ça, juste ça relaxe, un poquito quoi.
Merci pour le tuyau.
Voilà, je me suis dit une petite intro. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Big Bertha, donc qui n'auraient par exemple pas vu Drag Race, eh bien on va vous la présenter.
Donc on a pris Bertha, on n'a pas fait la Big Bertha.
Oui. Ouais, c'était,
oui,
c'était trop faux, pas exagéré. Bertha, B comme burlesque plus drag égale draglesque. Elle a un style inimitable pour performer sur scène depuis des années.
E comme excentrique, c'est une queen flamboyante, elle est arrivée en 5e position de Drag Race France saison 1.
R comme RuPaul Dragon, c'est la convention annuelle de la culture drag et elle vient d'y participer en Angleterre.
T comme talent au pluriel car elle sait aussi chanter, danser, faire des claquettes et même cuisiner des plats délicieux pour des restaurants comme récemment pour une résidence culinaire à la Nouvelle Scène.
H comme hilarante, en l'invitant on n'avait aucun doute sur le fait de se régaler pendant une heure.
A comme, imagine c'est pas le cas.
C'est clair, imagine.
Ah, on l'aura quand même dit, voilà. Ouais. Au moins on l'a dit.
A comme acceptation de soi, elle est hyper active sur les réseaux sociaux et prône l'inclusivité, la diversité et la pluralité des corps.
C'est beau.
Attends, tu m'as fait non à un moment, ça veut dire que t'es pas allé au DragCon ?
Alors non, j'ai fait la DragCon mais de l'année dernière.
Ah.
Pas cette
okay.
année, voilà.
Ok,
j'suis...
bon.
J'ai fait la Dracon, c'est un peu pour moi Veni Vidi Vici, le salon de l'agriculture de la drague. C'est bien pour moi une seule fois.
Oui,
voilà.
Parce que c'est quoi le concept?
Tu as 180 queens, drag queens de la franchise Drag Race, de partout, hein, de toutes les franchises, Amérique, Mexique, Angleterre, Espagne, Italie, etc. Et elles sont parquées dans des stands et les gens viennent les voir et les gens doivent payer pour prendre une photo ou discuter avec elles.
Oui, d'accord, c'est un petit
salon. Oui, un peu oui, salon de l'agriculture.
Moi, l'année dernière, on l'a fait avec Soa, on était toutes les deux ensemble dans le stand et on était le stand du peuple. Puisque nous, on disait, mais venez prendre une photo, enfin, si vous voulez acheter un minimum de merch à 2 livres.
Oui.
Voilà, pas comme d'autres queens qui disent genre c'est 40 livres pour avoir une photo avec moi.
Ouais, il faut le payer.
Ah oui,
la photo est payante.
Ah ouais, la photo est payante.
D'accord. Ah oui, d'accord.
C'est
ouais.
pour ça que je.
Oui, c'est
ouais,
pas vraiment des rencontres non plus quoi.
C'est prendre un peu le public pour une vache à lait.
Oui, mais parce que est-ce que c'est
après,
parce que
s'ils
c'est anglais,
s'ils le font et qu'ils kiffent le public, enfin sans vouloir faire genre on les prend pour des cons, mais du coup s'ils le font, mais parce que il y a un truc un peu d'œuvre d'art de prendre une photo avec une queen qui a passé le temps à.
Oui, carrément.
À se make-up,
oui,
à se mettre bien et tout.
En fait, c'est vrai que vous avez un côté œuvre d'art. C'est un peu terrible à dire comme ça, mais c'est flamboyant et du coup tu dis c'est ça.
Je veux pour tout le taf qui a été fait en amont. Si la personne paye sa photo après.
Moi je préfère qu'ils payent pour venir me voir en spectacle.
Bah oui, bien
que,
sûr. Bah voilà. Oui, pour performer quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, que juste poser.
Donc voilà, donc cette année j'ai dit oh non.
Oui, oui, ok, voilà. Je comprends. Et il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas de version.
Non.
Il n'y a pas des salons.
En novembre j'ai fait la version canadienne où je suis allé à Montréal. Okay. C'était la version francophone là-bas. C'était belle fun.
C'était
très sympa. Très sympa.
Oh, Justine aussi, elle sait le faire, l'accent québécois.
Elle l'a mis sur son CV en 2012. Il manquait des lignes, donc elle l'a ajouté. Mais elle est pas bien sûre de savoir le faire.
Ça va, je me suis améliorée.
Bravo.
Je me suis améliorée.
Bravo.
Oui. En 2016, c'était pas
à l'époque, c'était un mensonge pur.
Camille, elle avait vu mon CV, elle m'a dit fais-le-moi sur le champ. Je lui ai fait, c'était une catastrophe.
Non, mais ce que veut dire, vraiment, tu l'as mis sur ton CV en fait.
Oui, oui.
Mais c'est très bien, il faut que je le fasse, elle a raison. Alors, donc, on te reçoit, la Big Bertha.
Oui.
Dans le civil, tu es Loïc.
Oui.
Est-ce que c'est important de faire une distinction ou est-ce qu'on s'en fout entre, tu vois, est-ce qu'au final on s'en fout, t'es les deux, t'es l'un, t'es l'autre.
Je suis totalement les deux en fait. Je dis souvent que Bertha et Loïc, c'est un petit peu Minus et Cortex. Tu vois le délire? Voilà. Ce qui veut dire que sans Loïc, il n'y a pas de Bertha. Puisque Loïc, ça reste la...
Le matériau de base.
Le matériau de base, et c'est l'essence créative de Bertha. Pendant très longtemps, j'ai eu un fight entre Loïc et Bertha, en me disant, oh là là, mais il se passe beaucoup de choses pour Bertha. Tout le monde est autour de toi pour Bertha. Qu'est-ce qui reste à Lolo, ouais, derrière, okay. Voilà. Bon, après, heureusement, la psy est en PEL, hein, pour la psy est passée, et ça m'a bien aidé, puisque je me suis rendu compte quand même que, bah ouais, sans Lolo, bah, il n'y a pas de Bertoche, quoi. Donc maintenant, les deux me conviennent parfaitement. C'est sûr, c'est une extension de moi, Bertha. Et je l'utilise surtout comme un petit peu un porte-parole. De Loïc va pas non plus parler de certains sujets, etc. Alors que Bertha n'a rien à foutre.
Ouais.
Elle va se lâcher et si ça va grincer, elle va aimer.
Et donc quand tu performes, c'est Bertha?
Oui.
Ou Loïc aussi fait des spectacles?
Enfin, non, Bertha.
Je les différencie, mais.
100% Bertha.
Ok, ouais, only ouais. The big Bertha.
Only the big
Loïc, c'est le manager de Bertha.
Ouais, c'est ça, c'est le manager, c'est l'auteur, c'est le technicien, c'est le réalisateur, c'est le costumier, le berger, le maquilleur. Ouais. Voilà.
Et tu l'as trouvé tout de suite, la big Bertha? C'était genre quand t'as. Parce que toi, t'as... si j'ai bien. J'ai regardé un peu tes origines, ta fiche. T'as fait des claquettes, de la danse, fin, du chant et tout ça. Et au début, c'était Loïc qui faisait ces arts-là.
Tout à fait.
Et après, t'as fait un peu de drag ou t'as fait d'abord le burlesque?
En fait, non, c'est que j'ai commencé par le drag. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai commencé le théâtre. Quand j'étais petit, j'étais hyper timide. Genre, je me planquais.
Faut que tu fasses du théâtre, ça va te rendre moins timide. Ouais.
Mais c'est totalement ça, en fait. Et du jour au lendemain, en fait, apparemment, j'ai été totalement transformé. Ma mère a regretté de m'avoir foutu au théâtre. En me disant, putain, Loïc, tais-toi, arrête. Voilà.
Tu parles trop.
C'est ça, tu parles trop, tu fais trop des choses, c'est chiant. Sauf que ça a été une révélation. Et après, j'ai enchaîné le théâtre. Et ça, j'avais 6-7 ans, quoi. Et après, je me suis dit, ah là là, hyperactivité. Ouh, je vais faire beaucoup de choses artistiques. Oh là là, je vais faire du dessin. Oh, le dessin s'échange, j'arrête. Oh, je vais faire du solfège. Oh, au bout de 3 cours, j'arrête. Et après, j'ai fait de la danse, des claquettes, plein de choses. J'ai découvert le milieu du cabaret quand j'étais pré-ado. Ouais.
Ah bon?
Ouais.
Tu vivais où?
Je vivais dans le sud, dans le Tarn, à Castres.
Il y avait des cabarets?
Pas du tout. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y avait...
Tu es allé sur Internet?
Non, c'est Minitel à l'époque. Voilà, je n'ai pas 22 ans. Et mais non. Le soir de la Saint-Sylvestre, sur Antenne 2, à l'époque...
Ouais, mais là, le plus grand cabaret du monde, 60 non. ans. Non. Oh, wow. Antenne 2, t'as pas connu Antenne 2?
Late shaming. T'as pas...
Non.
Et en fait... La nuit de la Saint-Sylvestre, il passait à minuit le Crazy Horse. Le show du Crazy Horse.
Okay.
Et moi j'étais mais.
Ça t'en a mis plein les yeux.
Ah, mais ça m'en a mis plein les yeux. Et surtout les tontons et les oncles, les tatas et tout. Ils étaient là, oh là là, regarde le petit, dès son plus jeune âge, il regarde les gonzesses à poil.
Ah, si, ça va.
Coucou, tonton. Ah, bah ils sont au courant maintenant. Maintenant je suis PD, je suis Travelotte. Hello.
C'est pas ça qu'il regardait. Il était pas des loches.
C'est ça.
J'en veux.
Mais voilà, c'est clair. Donc j'ai découvert ça, j'ai découvert Jean-Marie Rivière, qui est le papa du cabaret parisien. C'est lui qui a créé la Grande Gêne, l'Alcazar, le Paradis Latin, etc. Et c'est lui aussi qui a été le premier à créer une troupe de drag queens, les Fabuleuses. Elles étaient 4. Elles ont fait le tour du monde, mais vraiment, enfin, c'était des superstars. Et moi, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'elles performaient à Bobino. Et j'y suis allé, et j'ai dépensé tout mon argent d'étudiant là-bas. Et je mangeais des pâtes.
Ouais.
Voilà. Et au fur et à mesure, ben, je me suis rapproché d'une des queens que j'adorais. 50 balais bien tapés, petite queen, bien grosse, bien hilarante, et qui s'appelait la grosse Bertha.
Ah, l'inspiration.
Inspiration, discussion avec elle, etc. Et voilà, c'est un petit peu le mix de tout ça qui a fait que Bertha est née. Et sachant que Bertha, en fait, elle est née par bêtise. C'est juste un soir où t'es avec des potes, tu déconnes et tu commences à te foutre un truc sur la tête, etc. Et là, tu fais c'est sympa. Ah, il y a une soirée qui va se faire chez un copain pour son anniversaire. Tu veux pas venir en drague? Sauf que moi, quand tu me mets en défi, moi j'y vais. Moi, j'appelle un perruquier, j'appelle une maquilleuse, j'appelle une costumière et je fais un truc, quoi. Et ça a fait un effet bœuf. Il y avait des gens qui étaient propriétaires de bars dans cette soirée. Ils ont dit, non, mais attends, ce personnage est génial, faut que tu viennes et tout dans nos bars. Et de fil en aiguille, ça a été ça. Après, j'ai monté mon tout premier cabaret que j'ai eu pendant 4 ans, où là, c'était vraiment du drag. Et après, j'ai mis un pied dans le burlesque. Et là, quand j'ai mis le pied dans le burlesque, c'est là où ça a explosé.
Burlesque, c'est un peu striptease ou pas forcément? J'ai l'impression que c'est la
grand-mère du striptease, en fait. Le burlesque est sexué, le striptease est sexuel. Ce qui veut dire que dans le burlesque, en fait, tu ne verras jamais de tétons, tu ne verras jamais de sexe. On a des nippies, des tassels, des cache-tétons ou des cache-sexe. Donc on est sur quelque chose de... on va suggérer ce désir-là.
Il n'y a pas de nudité 100%.
Non, il n'y a pas de nudité frontale. Donc c'est ça qui m'a un peu plu, quoi.
Et ouais, j'allais dire, pourquoi t'as eu envie d'aussi d'aller vers ça? Ce qui n'est pas évident comme art.
C'est pas du tout, c'est pas du tout
évident. Les feuillages, c'est... Ouais, c'est pas évident de
dire,
non,
je vais
faire ça.
C'est clair.
Bah, c'est pas pudique, quoi.
Ah non, pas du tout. Alors que c'était mon tout premier complexe, ouais. Tu vois, mon corps.
Ouais.
Mon corps de 1m90, 130 kilos, c'était un truc, oulala, ça passe pas inaperçu.
Ouais.
On essaie de le planquer un petit peu, etc. Mais en
justement,
fait,
ouais.
Je me suis rendu compte que ça faisait déjà 3-4 ans que je faisais du drag avec Bertha. Et quand je me suis mis au burlesque, parce que c'est Maud Amour qui est ma marraine de burlesque, Maud Amour qui est une performeuse juste fantastique.
Qui était à la nouvelle scène lors de ton show.
Exactement.
Ouais,
qui
ah,
était,
oui,
qui était à la nouvelle scène, qui est dans le show de Jean-Paul Gaultier aussi,
ouais,
le Fashion Freak Show.
Ouais,
qui
elle
est
magnifique.
Qui est chez Madame Arthur aussi. Et c'est elle un jour qui m'a dit, qui m'a vu une fois sur scène en Bertha et qui me dit, toi dans un an tu fais de l'effeuillage. Et j'étais genre,
no way.
Et ben non, après je faisais de l'effeuillage. Mais en gros oui, c'est ça m'a permis, tu vois, aussi Bertha est un petit peu ma psy, puisque c'est le personnage. En fait c'est pas moi.
C'est le personnage qui ose tout.
C'est le personnage qui ose tout. Et en fait le personnage, la première fois où j'ai fait de l'effeuillage, alors. C'était du mytho et feuillage, hein. J'enlevais un truc, j'avais quand même un soutif, voilà, nanana,
oui,
c'était
chaque
pas
chose
100%
en
nu, quoi.
Ouais.
Voilà. Enfin, d'un côté, ouais, maintenant, je suis tout en poil. Voilà, bonjour. Mais ouais, ça m'a permis de transformer, transformer un complexe en succès, quoi.
Ouais, en art.
En art, en...
Ouais. En truc assumé.
Ouais, totalement, et c'est ce qui fait mon côté unique dans mon personnage, en fait. D'assumer entièrement mon corps, de me dire, genre... Et alors,
ouais,
et
ça aide
il est beau,
d'autres
il est
gens.
Différent, et
ouais,
let's go.
Grave.
Et oui, ça, et après, il y a l'écho.
C'est forcément politique, enfin, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais effectivement, les corps qui sortent un tout petit peu des
de
normes qu'on
ouais.
a l'habitude de voir, en tout cas sur scène, au cinéma et tout. Et ça te saoule, en vrai, que ce soit politique, que juste c'est toi, ton corps, tu te déshabilles, et c'est vu
en fait,
un peu comme politique. Est-ce que ça te saoule ou ça te plaît?
En fait, moi, j'ai une énorme problématique avec cette définition de politique, en fait, parce que tout le monde a sa propre définition, tout le monde a tu vois,
militant, enfin, engagé, tu vois, ce
militant et engagé, en fait, moi, j'ai envie de dire que il y a un truc que je remarque depuis le début de ma carrière, c'est que moi, quand je crée un numéro, je crée un numéro en fonction de mon histoire. Mm-hmm. Exemple, j'ai un numéro signature qui s'appelle Pinoup, et qui est un numéro de feuillage que j'ai fait en talent show sur Drag Race, une énorme robe rouge. Et au tout début, c'était juste sur moi, l'histoire que j'avais là-dedans, c'était le fait que, en fait, on m'a souvent dit, en fait, une drague à barbe, tu ne peux pas être féminine. Tu ne peux pas incarner la féminité à cause de ta barbe.
Pardon, je ne suis pas experte en drague, il n'y en a pas beaucoup qui ont des barbes.
Il y en a de plus en plus.
Ok.
Il y en a de plus en plus.
Mais à la base, c'était pas.
Mais à la base de la base, le drag, en fait, quand tu restes dans des.
Dans le classique.
Dans des choses classiques, même des années 80, etc., c'est un homme qui ressemble à une. Qui se transforme à une femme.
Oui,
okay.
Au maximum
en femme.
Donc, du coup,
il faut...
s'il y a une barbe, effectivement,
oui,
c'est pas les codes féminins tels qu'on les entend.
Mm-hmm. Donc, ce numéro-là, c'était vraiment mon histoire, c'était là-dessus. Tu vois, de démontrer comme quoi, tu sais, si avec une barbe, je sais être sensuel et assumer ma part de féminité, mais en fait, les gens, le public, l'ont pris comme un manifeste contre la grossophobie. Si les gens, ça leur fait du bien et si ça leur permet... J'ai eu tellement de messages de gens qui disaient
merci,
bah,
merci.
En fait, merci parce que cet été, grâce à toi, je suis allé à la plage et j'avais pas de t-shirt.
Ouais.
Et moi, j'ai envie de te dire, alors que ce soit politique ou pas...
L'essentiel,
c'est que ça te fasse du bien, en fait.
C'est ça, mais toi, t'y vas pas en étendard contre la grossophobie,
en étant toi.
En étant toi, ouais, c'est ça.
Non, non, après, il y a toute une question de légitimité, de te dire, putain, est-ce que je suis porte-drapeau de ci, de ça, etc.
Oui.
Non.
Oui.
Non, parce que...
C'est trop de responsabilité.
Dans un sens, un peu oui et un peu non. C'est-à-dire non dans le sens où, de toute façon, c'est pas une personne grosse qui représente tous les gros, une personne trans ne représente pas tous les trans.
Oui,
mais de fait, comme tu es public et que tu as le corps que tu as, en fait, oui, ça transmet aux gens
Les problèmes de quota, quoi.
Des envies. Ah, tu penses qu'il y a des fois où on t'appelle parce que t'es grosse?
Ah oui, oui, oui.
Parce que la Big Bertha, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dragues grosses non plus?
Il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas énormément. Grosse et barbue, il y en a très très peu. Je sais que... oui, Drag Race, on m'a appelé pour ça. Ou la grosse rigolote à barbe.
Oui, pour faire le quota. On sait qu'il y en a qui ont des motivations qui sont juste « il faut remplir les quotas parce que sinon on va nous, nanana ». Mais il y en a qui le font avec à plus bon escient, en se disant « on va chercher au maximum de la représentation pour pas que notre émission télé représente qu'une partie des dragues, quoi. Mais c'est pareil dans Top Chef, dans Nouvelle Star, on connaît. Enfin, genre, ah, bah, ah oui, on va peut-être prendre au moins une personne noire pour montrer qu'il n'y a pas que des blancs.
Oui, c'est ça.
Et il y en a qui le font avec une motivation uniquement statistique, et il y en a qui le font avec une motivation plus sociale. Donc voilà, mais je pense que c'est... Enfin, c'est l'éternel truc de... Ouais, ça fait un peu chier, en fait, se faire appeler pour être la grosse ou la meuf ou la noire du show, parce que le reste, c'est que des hommes ou que des valides ou que machin. Et en fait, bah, c'est aussi important de prendre cette place-là. Donc,
Oui, j'avoue.
Ah oui, moi, ça n'a pas du tout été une problématique, tu vois, de me dire, genre, bah, en fait, oui, je rentre dans une case.
Oui.
Ok, fine.
Et du coup, Drag Race, ça te fait vraiment bondir, ou au final, c'est une marche dans ta carrière
Ça a quand même fait exploser un peu ma carrière, surtout sur la visibilité internationale. Ouais. Parce que même avant, je bossais beaucoup aussi à l'international, mais là, j'ai pu accéder à des choses où, jamais de la vie, j'aurais pu y accéder. Quand on propose mon profil pour le clip de Sam Smith, où Sam Smith dit, mais attends, c'est elle qui m'a fait pleurer sur son lip sync.
Et là, tu fais, okay. Oh, t'as fait un clip de Sam Smith?
Oui, j'ai tourné dans le dernier clip de Sam Smith.
Oh my god, c'est trop stylé.
C'est le clip Not Here to Make Friends.
Ah, trop stylé. Trop bien. Donc, ouais, tu vois, ça a ouvert des portes.
Sans Drag Race.
Ouais.
Ça serait pas allé. Même mon intervention à la Starac, tu vois.
Oui, puis il y a plein de gens qui t'ont découvert. Enfin,
oui,
moi,
totalement.
Je t'ai découvert dans,
bravo.
Dans Drag Race.
Oui, parce que nous, on se l'est déjà vu au Théâtre des Brunes.
Exactement.
Avant, il y a très longtemps.
On jouait au même
toi,
théâtre.
Tu connaissais déjà Bertha.
Ben oui, je connaissais. Je trouvais ça trop marrant. Tu faisais un show avec Philippe Davila.
Davila, exactement.
Le gars de. Bah, pardon pour le réduire à ça, mais c'était celui qui chante Les Rois du Monde. Quoi.
Ah, bon, bah,
c'était
en même temps.
J'étais là, waouh, c'est quoi ce spectacle? J'étais venue vous voir et tout, ouais, c'était trop cool. Et après, quand je t'ai redécouverte, j'étais là, oh, mais je me souviens,
mais
moi,
me
de cette drag queen à barbe. Je l'avais déjà vue. On se croisait tous les jours.
Oui, c'est clair.
Et t'étais la seule à barbe de la saison 1.
J'étais la seule à barbe de la saison 1.
Et d'ailleurs, toi,
et maintenant...
pourquoi tu gardes ta barbe à ce moment, au début? Parce que ça te plaît? Parce que tu veux que Loïc ait une barbe dans la vie?
Alors, déjà, premièrement, c'est que la barbe dans la vie de Loïc, c'est une chose indispensable. Puisque la barbe, je trouve que c'est un petit peu le wonder bra des hommes.
Oui.
Tu vois, ça te cache un peu le double menton. Voilà. Premièrement, c'est une question esthétique. Et après, pourquoi je le garde en drague? Mais j'ai envie de souvent répondre. Pourquoi pas?
C'était pas une question.
Non,
y a pas de... Tu t'es pas questionné au début, quoi. C'était ton personnage.
Pour moi, c'était totalement
c'était
naturel.
Et...
C'est parce que j'avais pas forcément envie d'incarner un personnage qui soit 100% féminin ou 100% masculin.
Ouais.
Ou voilà, parce que même quand je suis en Bertha, ma voix est encore plus grave.
Oui, c'est vrai.
Et moi, j'aime bien cet effet où de dos, on voit un corps bien voluptueux, bien sculptural, et tu te retournes et là, tu fais bonjour.
Bah oui,
et
oui.
Et là, les personnes sont en mode genre, yeah,
il y a un truc très comique et impressionnant
et
inattendu. T'as ouvert la possibilité de trouver des drag queens à barbe vraiment féminine, enfin vraiment quoi.
Ah oui, carrément.
C'est sûr.
Mais là, maintenant, tu vois, dans la franchise. Oui, parce que j'adore tous ces comptes Instagram. Qui font tout, toutes les reviews, les analyses,
les
sondages, les forums, tous les Drag Race. Maintenant, nous sommes 7 dans la franchise internationale. Drag à barbe. Et il y en a une 8e, c'est mon bébé, Drag Race Belgique saison 2, qui est ma sœur, la veuve, avec qui justement on faisait beaucoup de spectacles, The Bearded Sisters, en Belgique. Donc voilà.
Dans la saison 2, il y a Piche aussi, qui a...
Il y a
Piche
qui
a quand même un peu cette volonté, j'imagine, de casser les codes de genre. Donc
ça va
complètement aussi dans cette vague-là, de dire, mais en fait, venez, on cesse un peu cette binarité du monde et on casse un peu tout ça, quoi.
Mais c'est ça, en fait, que de nos jours, le drag, en fait, il n'y a plus aucune question de genre, en fait. Parce que tu as des drag queens, des drag kings, des drag queers, des créatures, toutes ces choses-là. Donc le genre n'est plus du tout au centre de notre art, en fait.
Et depuis Drag Race, depuis que ça existe en France, est-ce que tu constates qu'il y a un public différent qui vient au cabaret?
Totalement.
Ah ouais, c'est fou.
Ça a vraiment touché des gens qui auraient pas.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment monsieur tout le monde dans les. Enfin, je suis venue voir les deux Drag Race saison 1, saison 2, et puis je vais voir de plus en plus de cabarets. Moi-même, j'étais pas. Enfin, je pouvais déjà kiffer, bien sûr.
Et tu as préféré lequel? Le spectacle.
Les deux.
Non, mais le problème, c'était vraiment le premier. Donc, du coup, j'étais genre. Oh, waouh! Enfin, mais surtout, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette Coupe du Monde? Des drag queens. Comment il peut y avoir autant autour de moi, monsieur et madame, tout le monde? On dirait qu'il y a plus d'hétéros que d'LGBT dans la salle, peut-être pas à ce point, mais qui sont genre ultra excités.
Imagine une chose, on est le premier soir au Casino de Paris, tu as cet énorme rideau de velours de plusieurs mètres de haut, qui nous sépare du public et on attend. Et je suis derrière, dans les pendrillons, dans les coulisses, avec Ellipse et Cam qui doivent rentrer avant moi, etc. La musique commence et Nikki entre par la salle, le public et tout. Et déjà, on commence à entendre une certaine ferveur. Et là, je me rappellerai toujours du regard d'Ellipse qui se retourne vers moi et qui me fait genre... Ils font du bruit.
Ah ouais.
Et là, c'était rien du tout. Parce que là, le rideau se lève. Le rideau faisait un peu soundproof, tu vois.
Oh.
Et là, c'était...
Il y a combien de personnes
pas,
au casino?
1400 personnes.
Oh. Ouais, c'est
et
énorme.
Là...
C'est énorme.
Tellement de soirs de suite.
Et là, l'intro commence. Nos noms s'affichent sur les écrans et on ouais. rentre, etc. Ouais.
Oh. Et les gens, ils hurlent.
Et même... Et Ellipse, et même Ellipse me disait genre... Non Moi,
ouais,
je tremblais. J'avais les larmes aux yeux. Et j'étais en mode... Ellipse, 5, 6, 7, c'est à toi. Et là, tu ouais. te prends un ouragan dans la gueule.
Et ça fait... La peur, elle disparaît vite ou pas?
Ah,
ou ça met la pression.
Tu vois, regarde.
Ouais. ouais, mais ouais.
J'ai relé poil, quoi.
Mais c'est un kiff, du
ah,
coup.
Mais
c'est incroyable.
Un énorme kiff où tu.
Là, tu dis, t'es à ta place, quoi.
Jamais de la vie, on s'attendait à ça.
Non, mais l'ouverture tu que vois. Ça a amené, c'est une dinguerie. C'était niche un peu avant
ouais.
les drag shows. Enfin.
Oui, mais en fait, c'était,
c'était
un
certain public.
C'était
quoi.
Un art communautaire.
Ouais, ouais, voilà.
Tu vois, c'est que si ouais. tu voulais aller voir des dragues.
Je trouve fallait demander
drag,
un peu
fallait...
à des potes LGBT.
C'est ça, exactement.
Ouais.
C'est aller dans un bar gay, un
ouais.
bar lesbien ou
ouais,
autre,
c'est ça.
Tu vois.
Ça se passe où? C'est où Donne-moi
ouais.
les bons plans. Enfin, je
alors
qu'il y a,
que
en tout cas...
maintenant, ça devient un art populaire.
C'est trop... C'est ouf.
Enfin, regarde, il y a des drags qui font de l'opéra. Moi, je... l'année dernière, j'ai bossé sur un opéra. Là, cette année, je vais être au Théâtre du Châtelet. Enfin, t'as énormément de choses qui sont en train de s'ouvrir pour les dragues. Même notre tournée, exemple, au Casino de Paris, ça a été, et ça c'est fierté, hello, bonjour, où en gros, notre spectacle de la tournée de Drag Race France Live saison 1 a été le premier spectacle dans l'histoire du Casino de Paris à remplir 14 fois
ouais.
le Casino de Paris.
Ouais,
mais 14 fois en plein,
ouais,
en
complet,
full,
quoi.
En complet, quoi.
Incroyable.
C'est hallucinant.
Ouais,
et même
c'est
au,
la
début,
folie.
Au début de la tournée, on devait faire 8 dates.
Et c'est ouais. devenu
37
bah
dates.
Oui. Ouais, bah oui.
C'est
ouais, ça aurait pu même encore être plus, quoi. C'était...
Ouais, ouais, carrément.
Ouais.
Mais c'était dingue. C'est pour ça que c'est marrant. Hier, j'étais un petit peu à... j'étais à une soirée avec une partie de la prod de Drag Race, justement. Et je leur disais, mais moi, me tarde de faire la tournée des vieilles. Tu vois, genre Star 80,
ouais.
où t'as Camille au grand déambulateur. Ou voilà.
Quand vous serez has-been,
c'est
et
ça.
Que vous reviendrez faire vos numéros phares.
Les numéros, voilà. Les numéros signature de la bibliothèque.
Celle qui l'a fait connaître. Est-ce que ce serait pas le moment de passer au bol à question?
Bol à question, bol à question, bol à question.
Quel beau jingle.
Et ouais. Ouais, normalement, c'est à l'invité de le faire.
Bon, la question.
Yeah, voilà. t'as copié, clairement.
Oui, bah,
non, j'avais pas fait le. Donc, tu as des questions chill, n'est-ce pas? Des questions deep ici.
Ok.
Let's go.
C'est des questions de tout bord.
Eh bien, on va
allez,
commencer avec le chill.
Attraper le bol chill direct.
Et moi, j'aime
allez.
Pas faire les choses.
Prends
voilà,
ton.
Moi, je fais en dessous. Ton crush de la shame. Alors, ouais, mais moi, je sais pas avoir plusieurs crushs à la fois. Moi, je suis une personne à ne pas savoir. Ouais, moi, c'est quand j'ai une personne en tête, j'ai une personne en tête.
Mmh. Oui, mais un crush genre connu de tu sortiras jamais avec cette personne, mais t'es un peu un crush. Genre Macron, enfin, tu vois. Mmh. Mais
pas
c'est la honte.
Pas du tout.
Pas du tout Macron, bah, oui.
Non,
bon,
je peux
oui.
comprendre, mais, ouais. mais je pourrais comprendre
non,
de,
non,
le crush de la shame de.
Lui mettre des fessées.
Non, oui.
Mais tirer les
cheveux, il est pas mal, quoi.
Qui a été vilain garçon?
C'est Manu.
Mais non, crush de la shame, en fait, je... Mais moi, la shame, moi, je l'embrasse. Tu vois,
ouais.
c'est pas un truc dont j'ai honte.
Oui, oui, oui.
Pas, tu vois... Ah non, quand j'étais petit, si, Vincent Lagaffe. Je sais pas.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Tu
ah
vois
oui.
Mais,
ah ouais, Vincent Lagaffe,
mais quand
c'est...
j'étais petit.
Okay.
Oh, mais
c'est
voilà.
curieux.
T'as vu, c'est étrange. Hein.
Ah ouais, vraiment.
Ouais.
Mais il avait un truc sympathique.
Il avait, ouais, je
enfin,
sais
il
pas.
Enfin, il avait une pêche
un truc
énorme.
Très beauf quand même, tu
ouais.
vois.
Ah bah, très très beauf.
Mais c'était avant.
Avec Bill. Toi, c'est quoi, Camille?
De quoi, mon crush?
Ton crush de la shame.
Mais tout le monde le sait. Je l'ai déjà dit 100
ah
fois
oui,
et
c'est...
je l'ai encore. Alors
Olivier
que je
Véran
le déteste.
Voilà.
Hein? Non?
Olivier Véran, je sais même pas, il a quelque
chose. Oh mon Dieu.
Non, c'est Vianney. C'est
ah
un
oui,
enfer, c'est un enfer. Je le trouve adorable, encore. Et un peu Philippe Poutou,
oui.
je vous le dis la même.
Oui, c'est voilà. vrai. Je le trouve un peu sexy. Bah, je le trouve un peu sexy. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais je trouve qu'il est pas trop de la shame parce que c'est un gros gaucho qu'on adore.
Mais Vianney, c'est un enfer. Vianney, c'est en plus vraiment tout. C'est là dernièrement, en plus, il a pris des, il a positionné et je suis là, mais tout là. Non mais c'est un vieux réac, un scout de droite.
C'est ça.
J'aime rien.
Mais il met des polos et des mocassins et tu kiffes.
Mais non mais.
Et le mocassin?
À gland. Bien évidemment.
Et ben encore, je me dis, ah, mais il est quand même trop mignon. C'est pas bien. Là, c'est pas bien.
Oui, mais bon, c'est bien ça, un crush de la chine.
Non, mais je réfléchis, j'essaie de réfléchir encore un peu, mais le crush de la chine.
Non, mais Vincent Lagaffe, excuse-moi.
Oui, c'est un peu oui, mais ça, ça marche.
Non, mais ça, c'était petit, j'étais c'était hyper avant. Petit, quoi. Là, maintenant, à l'heure actuelle, non. De toute façon, j'ai un seul crush dans ma vie.
De star ?
Ouais.
C'est qui ?
Ah, mais ça fait des années.
C'est qui ?
J'aimerais bien qu'il me fasse un AK ou qu'il me fasse bouffer le tatami, quoi. C'était Irina.
Teddy Riner,
le judoka.
Ouais.
Oh. Ah ouais.
Il me fasse bouffer.
Ah t'aimes les gars solides quoi.
Ah ouais.
Ah, il est solide.
Bah, faut que tu le retournes. Hein. Voilà.
Oui, je comprends. Vianney, il peut pas.
Ah non. Non, Malédou. Non mais en plus il est beau, il est adorable. C'est une patte ce gars, c'est un amour et qu'est-ce qu'il est magnifique.
Mais il est très hétéro.
On sait jamais. Moi j'aime le bénéfice du doute. Sauf quand il annonce dans tous les journaux qu'il va se marier après les JO. Donc il me reste les JO.
Ah, il est pas encore marié, t'es
dit. Non. Bon, il va se marier après
les quelques
JO.
Mois.
Ouais, il me reste quelques mois, c'est le cours de Target.
Mais tu l'as déjà rencontré?
Oui.
Et t'arrives à lui parler normal et tout?
Non.
Ou tu te liquéfies un peu?
Ah, fou, okay. Là. Mmh. Bon, là, j'ai... Ouais, c'était Titanic. C'était. Bonjour. Voilà. J'aimerais bien qu'il vienne un jour à un drag show.
Ouais.
Qu'il m'aide à me remettre mes bas.
Ah, ou à les enlever.
Ou les enlever.
J'ai fait un clin d'œil. Je suis une énorme beauf.
Oui, c'est toi, Vincent Lagaffe.
Ah, ouais, appelez-moi Vincent Lagaffe. Bip, bip. Et toi, Justine?
Derrière le rideau se cache une voiture.
Voulez-vous le rideau ou Camille?
Et moi, je pense que c'est Justin Bieber.
Encore aujourd'hui?
Bah,
oui, il pourrait.
Quand même, il est pas mal.
Mais il a 12 ans, j'ai honte.
Bah, il a plus 12 ans maintenant.
Non, mais non, bon,
est-ce qu'il est si plus jeune que nous? Franchement, il a 10 ans moins. Non, il a 20 piges.
Non, mais il a pas 20 ans aujourd'hui.
Ah bon?
Attends.
Mais non, il a
20 ans.
Trentaine,
non,
Justin Bieber, attends.
Trentaine.
Mais non, il a toujours été plus jeune que moi.
Pour moi, il a 27 ans.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il m'aurait rattrapé.
Parce que quand il est devenu connu, peut-être vous aviez à peu près le même.
Il était connu à 14 ans, j'étais plus vieille.
Allez, regarde son âge, je pense qu'il a genre 22 ans.
Non mais attendez, non, vous avez 10 ans de plus, vous avez quel âge, wesh?
Justin 32. Bieber, il a...
Ah ouais, okay.
En fait, il a été connu à 13 ans déjà.
Ouais.
Et donc, il a 29 ans, ma vieille. Il est né en 94.
Ah,
vous avez 2 ans d'écart.
Ah, ça va.
Tout, non, mais c'est
tout,
bon
tout
alors.
Roule.
Ah oui, donc en fait, vous êtes né dans les années 90. Vous.
Moi, je suis né en 89. Donc, je suis limite.
Bon, ça va.
Et toi?
Donc, tu connais quand même un peu, genre, Hélène et les garçons et compagnie. Quoi.
Bah, bien sûr. Mmh. Alors que toi, non, pas du tout.
Ouais.
Allez, puisque c'est ainsi, nouvelle question.
Le film qui a marqué ton imaginaire d'enfant.
Hmm.
Je pense que c'est Fantasia.
C'est le Disney bizarre.
C'est le tout premier.
C'est le Disney hyper chelou.
C'est le premier.
Avec les
c'est le tout premier. Non,
non, c'est pas le tout premier. C'est le premier. Comment tu dis ça, la réalité machin? Parce qu'en fait, c'est un mix de dessins animés avec un orchestre réel à l'intérieur.
Mais etc. Ça parle pas dedans, non? Il y a que de la zik.
C'est principalement de la musique,
ouais. C'est quasi
que de la musique, des trucs chelous, les hippopotames en tutu, toutes ces choses là.
Ouais, le truc de foncedé, quoi.
Ouais, de ouf. Ça serait bien que je le regarde en étant foncedé un jour.
Ouais.
Ça va révéler des choses.
Moi, je l'ai pas vu. J'ai pas cette réflexion. Ou alors, je l'ai vu venir, c'était bizarre.
Je crois qu'il est trop bizarre.
Très, 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 très étrange, très bizarre.
Ouais, bah oui.
Mais
tu
c'est
m'étonnes
tellement
que ça marque l'imaginaire.
Ouais, mais c'est tellement bizarre que ça te permet de, d'avoir une ouverture à 100% de ton imaginaire et d'imaginer des choses, quoi.
Bah, il y a des Disney, ils ont été faits pour ça, quoi.
Oui, ouais.
Ça marque trop, quoi. Alice au Pays des Merveilles.
Ah, mais justement.
Ouais, c'est le deuxième que t'allais dire.
Alice au Pays des Merveilles, le tatouage de la bouteille. Et c'est une tradition, justement, avec mon frère. De tous les ans, on se re-regarde Alice au Pays des Merveilles quand on est dans le sud en vacances.
Sobre.
Ouais, sobre.
Et
mais ça suffit. En fait, ils font se dé déjà ce film. C'est...
Mais ça suffit parce qu'en fait...
Il m'angoisse limite aujourd'hui.
Mais c'est une métaphore, au final. Quand tu le regardes en tant qu'adulte, tu captes l'aspect métaphore.
Oh, bah, franchement, elle prend clairement des champis.
Mais de ouf. Alors déjà, elle est fonce dé. Tout le monde est fonce dé dans ce truc.
Ah ouais, vraiment. Non, mais ça fume, ça prend des champis.
Le mille pattes, c'est le dealer. Très clairement,
oui,
tu vois.
Vraiment, il a les yeux comme ça, voilà. La tour rouge.
Déjà, les jumeaux n'existent pas, c'est une seule personne, mais vu que t'es fonce-dé, c'est des jumeaux.
Ouais, tu vois double. Voilà. Elle grossit, elle devient petite. Enfin, elle grandit, je veux dire.
Et le chat, c'est quoi? Le chat chéchir.
Est-ce que c'est pas un petit peu ta conscience?
Ouais,
tu vois.
Il apparaît, il disparaît, il fait trop peur aussi.
Et moi, j'adore, mais en fait.
Et à la fin, elle se réveille.
Oui.
Bon. Elle a fait un trip.
Ouais, c'est ça.
Elle s'est pris un petit trip, si je puis me permettre.
Mais j'adore parce qu'au fur et à mesure, tu vois, de ton évolution et de ton âge, en fait, tu découvres
d'autres lectures,
d'autres choses.
Oui. Moi, c'est comme ceux qu'on fait les films Disney, justement, ils ont pas calé des gags partout dans les Disney.
De toute façon, si c'est des mecs, évidemment qu'ils ont mis des zizi.
Bah oui, c'est le seul truc qui t'a fasciné.
Vite, vite, on dessine un zizi.
Quiquette.
Allez, hop. Oui, oui. Bah, les oreilles de Mickey, de toute façon, c'est quoi? C'est une paire de couilles.
J'adore. Je vais regarder Mickey différemment maintenant.
Donc Fantasia, ça a marqué parce que tu te souviens de le regarder ou parce que ça t'a donné des idées, des envies
Ça m'a donné des idées, des envies. Ça m'a aussi ouvert l'esprit à la musique, à la musicalité, et aussi à cette possibilité infinie de créer et d'imaginer des choses totalement ravagées. Excuse-moi, mais avoir des hippopotames en tutu qui dansent sur Wagner ou autre.
Ça part trop loin.
J'adore.
Ouais, c'est ouf.
Et tu vois, et c'est marrant parce qu'il y a une soirée que je produis qui s'appelle la Bertha's Fantasia.
Bon.
En petit hommage, tu vois.
Oui.
Ouais. Un jour, je réussirai à dompter des hippopotames.
Ouais.
Leur foutre des tutus. Hein, voilà.
Sympa pour les hippos. Et toi, Kamtar?
Bah, j'ai pas grand chose qui me vient. Déjà, j'ai très peu de souvenirs d'enfance.
Okay.
Donc, vraiment, j'ai pas de souvenirs de. Je crois que quand j'étais petite, j'étais fan de La Belle et le Clochard, apparemment.
Mais oui.
Bon, je m'en rappelle pas. Donc, je sais pas pourquoi je voulais regarder ça.
Ça m'étonne.
Ça m'étonne
comme tout.
Des chiens.
Ouais, grave, des chiens. C'est trop pas ta passion.
Non,
un truc romantique.
Pas capté. Mais par contre, ah bah si. Bah, tu mets le doigt sur quelque chose. Par contre, tous les films dont je me souviens quand je suis plus jeune, c'est les comédies romantiques. Ou pas comédie d'ailleurs, parce que genre, les films que je me souviens d'être allé voir au cinéma, c'est Titanic, Coup de foudre dans le film, que les histoires d'amour, et je pense que aujourd'hui encore j'adore ça, donc je pense qu'il y a un truc de très vite j'ai aimé voir ça à la télé, je regardais les séries, enfin j'ai toujours eu cette passion un peu pour les histoires de love au cinéma, et c'est peut-être dès le début, tu vois.
Bah Titanic, je crois qu'il a marqué
quand même
absolument toute une génération et des enfants quoi.
J'ai vu tellement tard, je pense que j'ai vu il y a 4-5 ans.
Ah c'est vrai.
Je passe un bon moment.
Ouais, sans plus quoi.
Ouais.
Oui, ça doit être pas si ouf de le découvrir aujourd'hui, je trouve.
Je sais.
C'est bien,
mais
c'est
moi,
un bon film.
Je suis un peu tatariac où, en gros, à l'époque, c'était. Il y a un film, il marche. Et je vais pas aller le voir.
Oui.
Non, j'ai pas envie de faire comme tout le monde.
Ouais.
Sauf que forcément, après, tu le vois.
Bah oui.
Tu vois.
Ouais.
Mais t'es pas forcément dans la bonne époque, donc tu ne vis pas la même chose
que
les autres.
C'est vrai.
Et voilà. Et toi?
Et moi, là, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Peter Pan, le film, avec...
Peter Pan ou Hook?
Robin Williams. Ouais, Hook.
Ah, Hook.
Ouais, c'est ça.
Ah,
mais pour moi, c'est Peter Pan, le film.
Oui.
Ouais, non, c'est Hook.
Mais c'est Hook. Pardon, enfin... Tu veux dire Hook? Oui, parce que Peter Pan, le film, ça marche pas.
Mais parce que le titre du film, c'est quoi? C'est pas tellement nous qui avons envie que ça marche pas.
Okay.
C'est comme si Titanic, tu dis, vous savez, le film
Titanic.
Ouais, ta gueule.
J'adore, c'est le pas de que dalle. Allez, je compte les points. Ok, balle au centre.
Des balles perdues dans tous les sens.
Vas-y, dis pourquoi.
Mais allez, dis pourquoi. Bah, parce que quand même, donc déjà, Peter Pan, le Disney, est quand même incre. Mais là, en film, et Robin Williams, il est d'un touchant dedans. Je l'aimais trop. Et donc, ce film, il m'a grave marqué, mais vraiment plutôt petite. Et après, plus tard, plutôt ado, ce qui m'a marqué comme vraiment des premiers films que j'ai vus au ciné. Je crois que j'ai effectivement vu Titanic, comme pas mal de monde au ciné, un peu jeune. Mais j'ai aussi découvert Le Seigneur des Anneaux au ciné. Et j'étais là, waouh.
Ah ouais.
Oh, j'ai été fan. Bah, évidemment qu'aujourd'hui, j'ai le seum, vu qu'il y a absolument zéro meuf dans ce putain de film, et qu'il n'y a pas deux meufs qui parlent entre elles, et qu'il y a absolument...
Il n'y a que des blancs.
Que des mecs et que des blancs. Donc, ça me saoule. Mais à l'époque, j'étais là, oh waouh, en tout cas ce qu'on peut faire au cinéma,
c'est
tout bonnement incroyable. Ah, on tourne comme ça en Nouvelle-Zélande, on fait des armées, il y a des arbres qui marchent, des orques, des arbres qui marchent, enfin c'est absolument fou.
C'est vrai que, je suis d'accord.
Mais bon, Mais c'est fou le testostérone. Enfin.
J'ai jamais accroché, moi, Seigneur des Anneaux.
Mais à l'époque, comment je kiffais.
Ouais, ouais, Seigneur des Anneaux, même Harry Potter, quand c'est sorti, j'ai pas du tout accroché.
Oh, ah ouais, quand
même. Ou même tous ces trucs de Game
Star
of Thrones.
Star Wars aussi. Ouais.
Star Wars, pas du tout.
Ouais, ok, oui,
j'aime pas du tout. Ça,
ouais, je suis. Voilà.
Ouais, t'aimes bien les trucs
par
vrais.
Par contre, comédie romantique, oui.
Ouais. Mais d'ailleurs, je pense qu'en vrai, ça m'a fucked up.
Ah,
les comédies romantiques,
ah, sûrement.
Ah,
parce que, en fait,
mais moi aussi.
Même aujourd'hui, je les regarde et je me dis, mais oui, bien sûr. Mais pas du tout, ça n'arrive pas dans la vie.
Non,
ce n'est
non,
pas ça,
ça
qui se passe.
Tu ne fais pas tomber tes livres et il y a un bel inconnu,
pas du tout. Et pas du tout, à chaque fois que tu vas prendre l'air, il n'y a pas ton crush qui allait prendre l'air pile en même temps.
Non.
Ça n'arrive jamais, en fait.
Non.
À l'aéroport, personne n'est jamais venu me chercher. Non, ça n'arrive jamais. Donc, stop. Stop.
Est-ce que tu es très téléfilm M6 de l'après-midi ou pas?
Je peux les regarder. Bon, c'est vraiment une catastrophe.
Ce Noël.
Maman,
j'ai raté l'avion.
Mais non,
non c'est pas téléfilm.
Mais non, les romans coup de foudre à Noël.
Ah oui,
un chien pour Noël.
Ouais,
ah
bah
si, j'adore.
Un Noël dans le trou du cul de l'Amérique avec mon ex. Enfin, ouais. Non, bah non. Mais j'adore, mais c'est nul. Enfin,
dis-toi,
oui, c'est pas ça la vie. Genre.
En novembre dernier, j'étais en tournée au Canada et on fait une date à Québec. Et à Québec, il s'est mis à neiger. Et Québec, il faut se dire que cette ville-là, c'est. T'as l'impression que toutes les rues, c'est que un parc Disney géant. Oh. C'est exactement les mêmes décors que tu retrouves
dans ces
putains
téléfilms.
De téléfilms de l'après-midi de M6 romantique. Et là, je regardais la rue avec les lampions de partout. Et j'étais en mode genre, putain, forcément, il y a un bûcheron qui va venir déneiger, qui va me regarder en me disant...
Et ce sera... Ouais. Mais moi, je trouve que Paris, ça fait un peu cet effet, parfois.
Oh.
Paris,
ah bah alors,
vraiment. Et pourtant, ça fait 1000 ans que j'y suis. Et Paris, parfois, je te jure, bah justement, je suis en scout et puis je passe de l'autre côté de la Seine. Et donc je passe un pont, genre le pont des Arts, et je suis là, oh waouh quand même. Pardon,
oui.
Mais oh waouh.
Enfin, ah oui, Paris,
pour peu qu'il fasse un peu beau et que ce soit un peu le printemps, je suis là, bah dis donc. Il y a quand même une vibe très romantique, pardon.
Ah oui, carrément. Moi, je t'avoue, quand je rentre de tournée, je pose mes valises, je prends mon scoot, je vais faire un tour dans Paris.
Ah ouais, vraiment, j'en lasse pas, je trouve. Ouais.
Je suis un amoureux de Paris, j'ai bossé à Londres, j'ai bossé à Chicago, et à chaque fois, Paris me manquait de ouf.
Ouais,
parce que j'adore,
ça fait ça. À chaque fois que je pars, dès que je reviens, je suis là, ah Paris. Alors que les gens sont méchants, c'est tout pollué, c'est hardcore pour plein de raisons. Mais quand même, cette vibe et cette architecture, c'est quelque chose.
Oh oui, c'est quelque chose.
Oh, écoutez,
les amoureux de Paris.
Est-ce qu'on a le temps pour une last question?
Oui, tout à fait.
Ouais. Eh bien, on va partir dans le deep. Mon Dieu, j'ai peur. Qu'est-ce qui pourrait te faire avoir la grosse tête?
Peut-être que tu l'as déjà. Ça se la raconte ou pas?
J'espère tellement pas, parce que j'espère tellement que mon drag est basé sur l'authenticité, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait te faire avoir la grosse tête? Honnêtement, je sais pas trop, parce que c'est quelque chose qui me fait très peur déjà. Tu vois, de se taper la grosse tête, etc. Si tu te dis avoir la grosse tête, je trouve que c'est te déconnecter d'une réalité. Et moi, c'est cette réalité qui me fait créer, qui me nourrit. Donc c'est quelque chose qui me fait très peur et j'en reste assez éloigné. Et j'ai une armée autour de moi aussi qui, si ça monte un petit peu trop haut, je sais qu'ils seront là pour crever un petit peu toutes les chevilles gonflées, quoi.
Ouais. Okay.
Mais
pour te dire de redescendre, quoi, direct.
Ouais, c'est ça, tu redescends direct. Voilà. Mais
moi, vraiment, à titre perso, c'est vraiment, je crois, que les conditions d'accueil, par exemple. Si vraiment, là, je vais un peu en tournée. Mm-hmm. Et ça se trouve, c'est pas la grosse tête ou quoi au caisse, mais c'est juste que j'avoue que j'ai pas envie aujourd'hui d'être accueilli dans un hôtel un peu nul, miteux, de me dire va prendre une pasta box pour manger ce soir. Tu vois?
C'est pas du tout une question de grosse tête, ça. C'est juste une question de connaissance. Tu te connais et aussi à un moment ou un autre, t'as envie d'être performante sur scène.
Il y a plein de gens qui acceptent, enfin, qui se disent, bah non, c'est normal.
C'est
qu'on
mieux que rien.
C'est normal qu'on m'accueille pas mieux. Et moi,
oui,
je suis un peu genre, non, en fait, je veux un minimum de. Je sens que ça pourrait. Enfin, tu vois,
ouais,
dans
à
un
force
sens
d'être
à
dans
force.
Des trucs trop propres, tu voudrais un truc plus propre et un truc encore plus stylé. Et
quoi, ma chambre ne fait que 25 mètres carrés cette fois. Oui, je capte que quand j'arrive et que c'est un hôtel spa, je kiffe quand même un peu plus que si j'arrive et c'est un hôtel 3 étoiles.
Oui.
Le petit-déj, c'est un croissant et un pain de cantine, tu vois. Effectivement. Non, mais c'est
ouais,
en ça.
Ouais, après, c'est une question de confort, je trouve. C'est pas une question de constat.
Oui, non.
Ouais.
Ouais, mais c'est vrai que plus t'es un peu connu, plus on te propose du confort aussi. Et c'est vrai que ça, j'y ai un petit goût. Donc, je pourrais. Y prendre goût et donc ça me saoule de pas l'avoir.
Mais après, est-ce que tu te dis pas que t'as assez bossé dans ta vie pour accéder à des choses comme ça?
Pour mériter.
Et que c'est une fierté en fait d'accéder à des choses comme ça?
Bah si, c'est vrai que c'est bien de
tu
le voir comme ça.
Bah si, et c'est comme ça qu'il faut le défendre du coup.
Moi,
enfin, tu vois, genre quand on est invité toutes les deux avec d'autres gens à une résidence où on est logé dans un hôtel et tout le monde a sa chambre solo et nous on nous met ensemble toutes les deux, ce qui est déjà arrivé. Bah, en vrai, c'est... Enfin, tu vois, c'est... on l'a dit, oui, d'ailleurs. Et on se sentait trop mal de le dire, mais on était là. En vrai, c'est pas cool. Enfin, c'est pas parce qu'on est un duo qu'on dort ensemble dans la vie. C'est pas le cas, d'ailleurs.
Et Ah, d'accord.
Ah, d'accord. Elle annonce en direct qu'elle me quitte.
J'out notre rupture.
Non, mais en effet, c'était particulièrement une petite chambre et tout. On était... Et oui, on s'est dit, peut-être on va passer pour des relous. Alors que là, pour le coup, effectivement, vu de l'extérieur, je me dis, non, vraiment.
Ou comme il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui nous a invité à une avant-première. On peut raconter ça aussi. En fait, on se positionne un peu plus dans les trucs qu'on prend mal. Mais pendant longtemps, on était là, non, ça se fait pas, on va passer pour des stars, c'est horrible. Mais genre, il y a une agence qui nous invite sur une avant-première et il faut répondre au mail pour dire qu'on participe. Donc on répond au mail.
Une avant-première de film.
Ouais. On répond au mail pour dire, bah ouais, on est chaude. Et après, on reçoit un mail d'une meuf qui dit, pardon, mais on sait pas du tout qui vous êtes pas invité.
Oh.
Et moi, j'ai pris la mouche.
Comment elle était vénère. J'ai pris la mouche, là, j'avoue. Tête, c'est un truc de grosse tête. J'ai pris la mouche. J'ai répondu un truc. J'ai dit, on pensait que vous vouliez profiter de notre communauté, mais pas de problème, on libère notre soirée. Derrière, comment te dire qu'ils sont revenus en rampant. On a reçu des mails de deux personnes différentes et vraiment, j'étais là.
Mais sachant que c'était
une erreur,
de leur part, parce que c'était bien le même.
Oui, c'est ça. Quelqu'un est revenu pour dire, mais bien sûr que vous étiez invité, désolé, le mail
c'était
est passé.
C'était une agence de je sais pas qui.
Le mail est passé via une autre agence et ils savaient pas, et on était là.
Et j'étais vexée, et là, j'avoue, j'ai été vexée comme un poux en mode.
Et vous y êtes allé?
Non.
Non.
Là, j'ai exagéré.
j'ai été vexée.
Non, mais alors, on voulait pas.
Je suis cancer.
D'accord.
Oui, donc sans blague.
C'est très taureau, ça, quand même, comme réaction. Aussi.
Ah ouais, les cancers, c'est pas des gros vexés.
Mais c'est parce qu'on est fragile.
On est fragile. Bon, il est grand temps de passer.
Ah oui,
à la.
Ah oui, oulala.
Eureco, oula, pas reco.
Le top flop culture.
Voilà. Y a-t-il quelque chose, un podcast, une expo, un film, une série? Oh, j'ai parlé en mode Arte, c'était bien, c'était doux, non?
Ouais.
Qui t'aurait plu ou pas plu dernièrement et dont tu voudrais parler aujourd'hui?
Il y a plein de choses. plein de choses. Non, je vais parler d'une chose qui est assez révolutionnaire et assez ouf pour nous en tant que cabarettistes. C'est une exposition en fait qui se passe à Moulins. C'est Lacroix, le créateur, qui a monté le Centre National du Costume de Scène. Et depuis début décembre, ils ont monté une exposition sur le cabaret et son histoire. Et quand on a entendu parler de cette création d'expo temporaire, on s'est dit, ok, d'accord, sympa, ils vont foutre le Lido au Moulin Rouge, etc. Sauf que non. Ils ont fait appel à des drag queens, à des créatures, à des effets burlesques, à des personnes comme moi, comme soit de muse ou autre, pour leur filer des costumes signatures et être exposés parmi toute l'histoire du cabaret français. Ce qui veut dire que premièrement, on est reconnu en tant qu'artiste de cabaret. Parce qu'on va pas se mentir, chez les intermittents, nous, on est obligé d'être soit artiste dramatique ou artiste chorégraphique.
Ah oui.
Il y a rien sur le cabaret, le cabaret fait partie de l'histoire française.
Ouais. Enfin, oui, puis c'est un art à part entière.
C'est cocorico, quoi. Enfin, on est fiers de ça. Et,
cocorico.
C'est ça. Et se dire que t'as ta petite affichette avec marqué de la Big Bertha juste à côté de...
Donc t'as donné une tenue.
J'ai donné deux tenues, J'ai donné mon l'ours de Gauthier, Nana, que j'ai porté sur l'épisode 1 de la saison de Drag Race, et un autre costume qui est un manteau Bowie que j'avais pour une cérémonie. Et se dire qu'on se retrouve parmi tous ces gens-là, c'est ouf. C'est dingue, on est enfin reconnu quoi. Donc ça, c'est vraiment le.
Mais donc, pourquoi elle est là-bas, l'expo? Enfin, je veux dire, pourquoi c'est dans un coin un peu perdu? Pourquoi c'est pas une expo plus accessible?
Parce que c'est Lacroix qui a eu le courage de monter ça. Et je sais pas s'il y a un musée à Paris qui va prendre le relais ou pas.
Mais donc, si vous êtes dans le coin de Moulins.
Et après, c'est pas très. C'est hyper facile pour y aller.
Ouais, et bah, allez voir ça.
Okay. Je l'ai fait, c'est hyper simple. Okay. Tu prends un petit TER, bisous, bye. Et
Minette vient de s'installer sur mes genoux.
Ouais, elle avait rien
dans
à
la
de
plus grande tranquillité, alors que vraiment,
voilà. Alors que tu ne l'as pas appelée,
je n'ai rien demandé.
Vraiment, tu ne l'aimes pas plus que ça, mais elle est venue.
Elle a fait trois fois le tour.
Elle a dit c'est doux, c'est là que je me mettrai.
C'est ça.
Justine, toi, t'as une reco ou un flop peut-être?
Ah putain, j'ai du mal à sortir de ce flop là. Je suis allée voir Pauvre créature au ciné, qui est le film qui a raflé tous les Golden Globes.
Attends, je vais te dire un truc. Tu peux prononcer le nom du réal? Je suis une bâtarde.
Non, je sais pas. Ligos. Attends, je vais te dire là au pif ce que j'ai dans ma tête. Ligos. Ouais. Non.
Yorgos Lanthimos.
Ah voilà.
Je suis une bâtarde. C'est juste pour me la raconter. Vraiment, j'étais là. Non, mais parce que son nom.
Mais c'est bien en plus de dire Yorgos, le réal quand même du
genre. Yorgos Lanthimos.
Yorgos Lanthimos, oui.
C'est mais ça. C'est un grec du coup.
J'en sais rien. Ah, je sais pas. Genre, il y a O, c'est grec quoi.
La base.
Donc voilà, c'est le film du moment avec Emma Stone qui est absolument incroyable dedans. Effectivement, flamboyante, resplendissante. Elle mérite un Oscar, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que ce film? Pitié.
Tu peux dire le pitch?
Je pensais que j'allais adorer. Alors, je dis le pitch, mais bon, au cas où, parce que j'ai toujours peur de spoiler dans un pitch, il faudrait que je lise le vrai pitch, mais bon, ça se passe à peu près au début, donc je vais dire ça. C'est un vieux monsieur, tout mal foutu, là, on sait pas trop bien pourquoi, mais bon, c'est dans un monde qui n'existe pas, comment ça se dit? Bon, c'est dans un monde qui n'existe pas. Et c'est un vieux monsieur tout mal foutu qui est interprété par
Willem Dafoe.
Par Willem Dafoe qui rescue.
Je vais pas le dire en non.
Qui sauve.
Qui sauve.
On va faire vraiment les.
vous m'aidez.
C'est clair.
Vous m'aidez. Bon, attendez. C'est un vieux monsieur tout mal foutu.
Vincent Lagaffe a déjà fait des jeux comme ça. Hein.
C'est un vieux monsieur tout mal foutu dans un manoir qui fait des trucs médicaux chelous, genre qui fait des expériences chirurgicales. Et du coup, il récupère une meuf qui s'est suicidée, mais genre elle est pas tout à fait morte, et il la récupère, et c'est Emma Stone, genre. Et elle est enceinte. Et elle s'est jetée d'un pont. Mais genre, il pourrait la sauver à ce moment-là. Mais non, il décide de faire autre chose, complètement farfelu. Il enlève son bébé de son ventre. Il prend son cerveau au bébé et il met le cerveau du bébé dans le cerveau dans la tête de Emma Stone. Donc, c'est une femme de
genre. C'est un genre de Frankenstein en fait, un peu.
Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Frankenstein au féminin, hyper féministe, bla bla bla. Donc, déjà, hyper féministe de faire ça en soi, non? On est d'accord, hein? Je sais pas, il y a une meuf, elle voulait se suicider. Il a dit non. Alors, non seulement je vais pas la sauver, mais en plus, je vais
lui implanter le cerveau de son bébé.
Je pense que ça va faire un truc plutôt bien. Bon, soit. Et en fait, il y a plein de prises de parti qui sont assez féministes et assez intéressantes dans le scénario. Et vraiment, il y a un pitch qui est plutôt cool. Et puis finalement, tout est à chaque fois niqué par un male gaze et un truc pas du tout féministe. Mais vraiment, je suis égarée de ce film. J'ai pas compris l'engouement. J'ai pas compris comment tout le monde croit que c'est féministe alors que, on se regarde bien droit dans les yeux, ça ne l'est pas. Je suis pas d'accord, je suis désolée. Bon, déjà, c'est réalisé par un homme. Je vois pas comment de fait, ça peut être totalement féministe. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà. Donc, du coup, on a la vie de cette femme dans un corps de 30 ans qui a un cerveau de bébé et qui baise tout le temps. Voilà. Si vous voulez tout savoir, c'est ça.
Mais elle est un enfant.
Elle est un enfant, ouais.
Et elle baise.
Oui. Oh oui. Elle baise et elle adore ça. Elle adore ça. Et le réalisateur, il adore ça, mettre Emma Stone à poil tout le temps.
Mais c'est hyper chelou. C'est hyper. C'est
ça malsain. Me dérange. Je vais y aller, mais ça va me déranger. Et elle se fait bolos par des mecs tout le long du film. Et donc il y a plein de moments où tu dis yes, elle se fait bolos et elle les rembarre. Et puis en fait. Non. Enfin bref, ouais, donc voilà, là je peux pas continuer de spoiler, mais.
T'as pas kiffé le message.
J'ai
envie de te dire très beau pitch.
Et j'ai pas compris. Faut m'expliquer ce chef-d'œuvre. Parce que là. À part Emma Stone, pour moi, il n'y a pas de chef-d'œuvre là-dedans. Mm. Donc c'est la première fois que je fais un flop, je crois.
Ouais, c'est vrai.
Dis donc.
Bravo.
Alors,
moi j'ai un petit flop cinéma, mais j'ai un top après. Mais le petit flop, quand même, on va y aller rapidement parce que je suis allée voir Moi, Capitaine, le dernier film de Matteo Garrone, qui raconte la trajectoire de deux hommes noirs. Enfin, deux hommes, ils ont 16 ans, donc vraiment plutôt jeunes mecs.
Jeunes hommes.
Sénégalais qui traversent, qui font le parcours pour venir en Europe. Moi, Capitaine.
Ah oui.
Yo, Capitano. Parce que c'est italien. Donc, Matteo Garrone.
Bravo.
C'est toi, t'es
sûr.
Et en fait, je voulais voir ce film parce que je trouve que c'est hyper intéressant de voir les parcours. En fait, c'est le parcours des migrants, de gens qui quittent leur pays pour venir trouver un monde meilleur en Europe. Chose qui va pas tellement se passer, hein, en vrai, puisqu'ils vont se faire lacérer leur tente et arrêter par les flics et renvoyer chez eux. Hein, ouais. En France, on accueille un peu comme ça. Bon, là, eux, ils veulent aller en Italie, mais je suspecte que c'est pas tellement mieux. Et bref, et en fait, donc j'étais hyper intéressée. Et au final, le film, le problème, c'est que. Déjà, je comprends pas trop le parti pris du réalisateur, parce que déjà tu les vois quitter le Sénégal alors qu'au final, oui, ils ont pas une vie de rêve là-bas, mais ils vont bien. Enfin, je veux dire, ils ont une famille, une maison, leur vie. Enfin, je sais pas. Oui, c'est pas la vie rêvée. Hein, je suis pas débile, mais c'est pas. Ils quittent pas un pays en guerre, donc déjà l'empathie est pas au maximum. Nous, petits blancs qui regardons le film. En fait, je me suis surtout dit, mais s'il y a des gens qui sont contre les migrants, c'est trop bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? bah, ils vont vraiment se dire bah fallait pas partir mon pote, ouais. Parce que t'étais pas en danger de mort, donc du coup c'est un peu curieux. On voit tout le parcours, donc oui évidemment c'est ils traversent la Libye, ils se font arrêter, rendus en esclavage, torturés, enfin oui parce que c'est, le parcours est évidemment horrible, donc t'es en empathie là-dedans, mais surtout à la fin tu les vois, enfin pour le coup je vous spoil un peu la fin, mais bon c'est le parcours de la traversée, hein, donc voilà, et à la fin tu les vois, ils voient la terre, ils sont sur un bateau, ils voient la terre italienne à l'horizon et le film s'arrête. Et je me suis dit bah
hein.
Ah c'est putain. Juste tout le parcours,
ouais, c'est juste le parcours, sachant qu'au début enfin tu
sais coup, pas exactement ce qui fuit, ouais enfin c'est pas clair,
tu sais pas ce qui fuit, c'est pas raconté, enfin c'est pas trop raconté à part oh ah, on rêve de l'Europe, on dirait vraiment un blanc qui a imaginé que les noirs rêvaient de l'Europe,
ah oui
tu vois.
Okay.
Alors que je suppose qu'il a quand même bossé pour écrire ce scénar avec des gens concernés, tu vois,
c'est un blanc qui a réalisé,
oui,
le film.
C'est un blanc, Matteo Garrone. Ah. Et bah, voilà un peu finalement un peu comme quand toi tu dis je vois pas comment un homme peut réaliser un film vraiment ouais. féministe, bah en effet je vois pas comment un blanc peut vraiment raconter oui. l'histoire des personnes qui quittent leur pays, qui se déracinent ouais. pour chercher un monde meilleur, et en fait tu les fais même pas arriver et voir qu'est-ce qu'ils trouvent en fait, une fois qu'ils arrivent. Donc j'ai trouvé ça un peu feignant, donc ça m'a un peu gonflé. Et au final le film j'ai trouvé très très vain. Pendant que tu le regardes évidemment, hein, moi j'ai un petit peu pleuré à des moments, bah, faut pas déconner, si t'as un peu d'empathie t'es à fond dedans, mais à la fin je me suis dit oh, ah d'accord, enfin tout ça pour me dire un truc qui est un article de journal, enfin, là pour le coup voilà.
Oui, oui.
En revanche je vous conseille, si vous avez un peu de temps et que vous aimez les podcasts, en ce moment, je suis à fond dans les podcasts de France Culture et j'écoute la série documentaire. Les podcasts s'appellent LSD, la série documentaire. Et c'est tout le temps des trucs en plusieurs épisodes d'une heure. Donc en général, ça dure 4 heures pour creuser un sujet. J'avais écouté celui qui parlait de la Palestine, qui était vraiment formidable. Là, j'ai écouté celui qui parle de la marche de 83. C'était la marche des beurs à l'époque, qui s'appelle... Enfin, le sous-titre, c'est genre
Touche
Histoire d'une égalité ratée.
Ouais.
Et c'est, il est trop, trop, trop bien pour comprendre... la vague de migration, le racisme qui s'est insidieusement enfin qui est arrivé un peu partout dans notre société, à l'état, enfin à l'étage des politiques comme du peuple lambda entre guillemets, et comment cette marche aurait pu être un truc de ouf, touche pas à mon pote, comment ça aurait pu être complètement pour arriver à une égalité et que ça n'a pas du tout été le cas. Trop trop touchant. Et là j'ai fini d'écouter aussi celui sur attends, le titre c'est quoi ? Parce que j'allais dire celui qui parle des pauvres. Donc vraiment, c'est 4 épisodes sur les pauvres en France. Oh, c'est... Ben, j'ai pleuré encore aussi. J'ai pleuré, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est des gens qui n'ont pas d'argent du tout. C'est différentes strates de la société de gens qui n'ont pas d'argent. C'est effectivement des personnes qui ont immigré. C'est les ouvriers, c'est les agriculteurs. Et le dernier épisode, c'est comment il y a une ségrégation pauvre-riche en France dans certaines villes. Genre à Saint-Germain... en lait, qui est riche, et à côté il y a des villes hyper pauvres, enfin bref, c'est voilà, je vous conseille parce que c'est des podcasts, comme c'est long, ça creuse pas mal le sujet, ça...
C'est France Culture, c'est ça.
Ouais, c'est France Culture, et ça te donne vraiment, à la fin, t'as entendu pendant 4 heures parler d'un sujet, donc t'es pas expert ou experte, mais
non,
quand même,
mais
t'as
tu maîtrises, quoi.
Pas mal d'infos,
t'as
c'est...
Des éléments,
ouais, c'est vraiment, vraiment des... Enfin, j'aime trop ces podcasts-là, et particulièrement les 3 séries que je viens de vous donner. Voilà, si vous avez 12 heures devant vous, voilà, vous pouvez les écouter, c'est vraiment très cool.
Eh bien, nous touchons
à la fin.
Touchons à la fin, c'est quoi la fin ?
Touchons-nous ! Si les gens veulent te retrouver, est-ce que t'es en spectacle en ce moment ?
Oui, il y a plein de dates qui arrivent, que ce soit avec le show que je produis, Excuse My French, qui est un show avec que des queens de Drag Race. Il y a aussi le cabaret Le Secret de Monsieur K, qui vient tous les mois. Tout est mis sur mes
réseaux sociaux.
Sur mon Insta.
La Big Bertha sur Instagram.
Ouais, labigbertha.paris. Oui, sinon, si tu tapes la Big Bertha, tu tombes sur les poufs.
Sur quoi ?
Des poufs.
C'est une marque de...
C'est une marque de pouf.
De pouf de meubles.
De pouf de meubles. Oui, je... La la la.
Ah ouais.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui disent « Ah là là !» Ça s'appelle Big Bertha Original.
Oh.
Et
oui,
voilà,
d'accord.
Des gens, voilà.
Donc ne vous trompez pas, si
ne
c'est un pouf, c'est pas,
si c'est
c'est
pouf.
Pas la Big Bertha.
Voilà,
mais si c'est une pouf, par contre, c'est la Big Bertha.
Oh là 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 là.
Comment tu la traites mal.
T'as vu, ouais.
Elle reviendra
direct.
Pas.
Je vais tweeter direct.
Ok, donc que les gens te suivent sur Instagram pour avoir
yes,
toutes
carrément.
Les infos.
Tout à
et donc
fait.
Ils peuvent te voir sur scène.
Oui.
Ils et elles peuvent te voir sur scène. Super,
excellent,
formidable.
C'est tout.
Bravo.
Bah merci.
Excellente journée.
Écouté. Qu'est-ce
à
que vous
tous.
Voulez qu'on vous dise de plus en fait
tous.
À bientôt.
Allez.
À bientôt.
Merci.
Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci. Bye.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.